Bonjour à tous. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent pendant cette période aussi estivale. C'est beau de voir l'Église en plein mois d'août aussi remplie. Pour vous qui nous rejoignez, nous sommes dans une série dans l'Évangile selon Marc. L'Évangile selon Marc est excellent pour l'Église parce qu'il nous permet de voir comment est-ce que Jésus a appelé ses disciples, s'est présenté à eux et leur a expliqué quelle allait être sa mission et ensuite la continuité de sa mission allait se manifester dans leur vie. Et pour l'Église, c'est vraiment une aubaine d'avoir cette vision d'ensemble et l'Évangile de Marc est un livre magnifique de la Bible que j'aime énormément parce qu'il finalement, il est très simple. Marc répond à deux questions fondamentales. La première est « Qui est Jésus ?» Jésus est le roi, nous dit Marc. Et pourquoi est venu ce roi? Pourquoi ce roi est-il venu sur terre? Eh bien, pour l'œuvre de la croix. Vous voyez, c'est d'une simplicité extraordinaire. Qui est Jésus? Le roi, et il est venu pour l'œuvre de la croix. Et dans les 8 premiers chapitres, Marc expose, nous donne un portrait de Jésus au travers de, comme un album photo, où on le voit, on suit un petit peu son... maintenant, on appelle ça des vlogs, vous savez, quand il y en a qui filment leurs vacances et qui mettent ça sur Internet, et bien c'est un petit peu pareil. On voit la vie de Jésus, des épisodes qui nous dressent ensemble, on a une mosaïque avec un portrait qui nous permettent, quand on arrive au chapitre 8, que ce qui a été affirmé dès le début du livre, c'est-à-dire que Jésus est le Christ, soit une évidence pour le lecteur, et on va le voir ensemble, devienne aussi quelque chose de clair pour ses disciples. Et donc, le chapitre 8 est une charnière, et les textes que nous allons lire aujourd'hui forment un pivot dans le livre qui nous permettent de passer de la compréhension de qui est Jésus à maintenant à pourquoi est-il venu ? Qu'est-ce que cela va transformer ? Qu'est-ce que cela va amener ? Et quelles vont être les implications pour ses disciples ? Et donc, il faut bien faire attention à ce texte-là. C'est un texte qui est très riche. Nous n'aurons pas le temps de le creuser ensemble et d'en voir toutes les implications. Mais je voudrais essayer d'en faire une présentation générale. Et ce sera l'occasion, mais c'est un thème qui revient souvent de toute façon dans nos prédications, que nous pouvons revoir ensemble. Avant de rentrer dans le texte, je vous propose d'y rentrer avec trois questions qui amènent, je crois, des réponses qui sont extrêmement importantes. Des réponses que nous devons tous avoir et que la Bible invite toutes celles et ceux qui la lisent, toutes celles et ceux qui l'entendent, à répondre. Première question. Avez-vous compris ? Qui est Jésus ? La réponse pourrait sembler assez simpliste. Mais avons-nous réellement compris le Jésus présenté dans les Écritures ? Deuxième question. Avez-vous compris ce qu'implique d'être son disciple ? Ou la question, qu'est-ce qui fait que l'on est chrétien ? Est-ce qu'on est chrétien quand on vient à l'église le dimanche, quand on lit sa Bible régulièrement, quand on donne de l'argent à son église pour participer, quand on fait des bonnes actions dans son quartier pour aider ses voisins ou des choses comme ça? Qu'est-ce qui fait que l'on est chrétien? Troisième question, qu'est-ce que Jésus veut nous montrer de lui dans la vie chrétienne? Qui est Jésus? Comment être sûr que l'on est chrétien, et qu'est-ce que Jésus veut nous montrer de lui dans la vie chrétienne? Et ce texte-là, que nous allons voir ce matin, va répondre à ces questions et est le pivot qui nous permet de basculer dans la deuxième grande partie de l'évangile de Marc, qui commence au chapitre 9. Donc, nos lectures vont être entre le chapitre 8 et le chapitre 9 de l'évangile selon Marc, si vous avez suivi ce que je viens de dire dans ces quelques minutes. Alors, Matthieu, Marc, et nous allons au chapitre 8. Charlie, je crois, était le précédent à avoir prêché sur l'évangile de Marc et avait vu le début du chapitre 8. Nous allons ensemble maintenant nous attarder nous allons lire le chapitre à partir du verset 27 du chapitre 8 jusqu'au verset 13 du chapitre 9. Alors, nous sommes partis et je commence la lecture. Je vais séparer ma lecture en trois parties et à chaque fois je ferai des commentaires sur chacune des parties puis nous arriverons ensemble à la conclusion. Matthieu 8, verset 27. Marc, pardon, oui, là c'était un petit test. Alors, nous sommes après la guérison d'un aveugle, et Jésus, verset 27, s'en alla avec ses disciples dans les villages de Césarée et de Philippe, et il leur posa en chemin cette question. « Qui suis-je, au dire des hommes ?» Ils répondirent, « Jean-Baptiste, les autres, Élie, et les autres, l'un des prophètes. » « Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis ?» Pierre lui répondit, « Tu es le Christ !» Jésus leur recommanda sévèrement de ne dire cela de lui à personne. Après, alors, il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs, par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite trois jours après. Et il leur disait ces choses ouvertement. Et Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Mais Jésus, se retournant, regardant ses disciples, réprimanda Pierre et dit, « Arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. » Je m'arrête là. Première grande vérité de ce texte, le fait que Jésus est le Christ est lié à sa mort. Le fait que Jésus et le Christ est lié à sa mort. Et je voudrais faire quelques remarques sur ce texte. La première, c'est que Jésus veut donner à ses disciples la vraie définition, leur permettre de comprendre ce qu'est le Christ. Le Christ, le mot Christ, est la traduction grecque du mot Messie, qui était loin. Le Messie était le roi de la postérité de David, le roi qui était attendu pour délivrer son peuple, le roi qui serait le roi éternel, le roi qui allait gouverner depuis Israël et dominer sur le monde entier. Et les disciples avaient, et les gens de l'époque avaient une certaine compréhension de ce que devait être le Messie et de ce qu'il devait faire. Et quand Jésus, après tous ces temps passés avec les apôtres, après toutes les démonstrations qu'il a faites de ses capacités, de sa sagesse, de son pouvoir, de qui il était, il demande, les gens, que disent-ils de moi? Et il voit que, effectivement, les gens ont encore une vision qui est très troublée, ils n'arrivent pas à trancher, certains se posent des questions, les gens ne savent pas finalement qui est Jésus, un prophète, un roi, quelqu'un de nouveau, peut-être certains pensaient même un magicien ou que sais-je, mais les gens n'ont pas encore compris qui était Jésus. Pourquoi? Parce que nous l'avons vu précédemment dans Marc, les gens sont encore aveuglés. Et ce qui est terrible dans l'évangile selon Marc, c'est que Marc nous montre que les foules étaient aveuglées, mais que les disciples mêmes, les apôtres eux-mêmes, étaient aveuglés aussi en partie, ils ne comprenaient pas qui était Jésus. Et là, on a Pierre qui dit « Tu es le Christ ». Merveilleux. On se dit « Enfin, il a compris ». Sa réponse est juste, mais sa compréhension est totalement fausse. Il dit qu'il a compris que Jésus était le Christ, mais sa vision du Christ, sa compréhension de ce qu'est le Christ, elle, est complètement fausse. Et donc, on pourrait dire, bon, ben, super, il a franchi une étape, il a avancé, oui, d'une certaine manière, mais en même temps, il est toujours à côté de la plaque, le pauvre. Jésus dit ce que dit Jésus à propos de lui. Il commence à leur annoncer, une fois qu'il a affirmé qu'il était le Christ, Jésus, Marc nous dit, alors il commença à leur apprendre. Jésus, jusqu'à présent, dans la formation qu'il avait donnée à ses apôtres, n'avait pas abordé ce sujet-là. Nous avons là maintenant une étape suivante. Jésus dit, vous avez compris que je suis le Christ, le Messie, le roi de la postérité de David, qui doit venir triompher, vaincre et tout ça? Oui. Eh bien, vous savez quoi? Eh bien, il faut que je meure. C'est un non-sens total. Un non-sens total pour les disciples. Et Jésus ne dit pas qu'il veut gagner, mais qu'il sait d'avance qu'il sera blessé, qu'il mourra. Il ne leur dit pas, écoutez, je vais tout faire pour réussir. Jésus dit, il faut que je meure. C'est un non-sens, enfin, c'est incompréhensible, inintelligible. Et Jésus dit, regardez ce qu'il dit, j'ai essayé de le mettre en évidence dans ma lecture, Jésus dit, il va souffrir, il sera rejeté par les anciens, les principaux sacrificateurs, les scribes. Jésus ne dit pas qu'il va être rejeté par la racaille de son époque qui va l'attraper au coin d'une ruelle et qui va le tuer. Jésus ne dit pas qu'il va être rejeté par des personnes qui sont des anonymes. Non, à l'époque, les personnes qui sont nommées là, c'est la crème de la crème. C'est les gens de la haute, comme on pourrait dire. C'était les gens qui étaient vus comme étant les meilleurs, symboles d'une humanité qui est totalement aveuglé par le péché. Ou même les plus religieux, même ceux qui sont le plus zélés pour obéir à Dieu, ne comprennent pas qu'il est le Messie qui était annoncé dans les Écritures. C'est dramatique. Et Pierre, donc, lui, déclare que Jésus est le Christ. Donc jusque-là, on pouvait se dire très bien, sa réponse est bonne. Mais ensuite, Pierre pense que Jésus se trompe dans sa théologie, ou en tout cas que Jésus fait une erreur, ou en tout cas que Jésus ne peut pas dire une telle chose parce que Jésus n'a pas compris. Si Jésus est le Christ et lui a compris que Jésus, il l'était vraiment, il se dit non, en fait Jésus, il s'est trompé là, ce n'est pas le rôle du Christ. Pour Pierre et pour nous tous, les messies de notre monde sont ceux qui triomphent, sont ceux qui connaissent la victoire. Le peuple attendait du roi qu'il chasse les païens hors du territoire. Ils attendaient du roi qu'il puisse purifier le temple. Ils attendaient du roi qu'il délivre le peuple de l'oppression romaine. Ils attendaient du roi qu'il porte la royauté et qu'il étende le royaume, qu'il étende la nation d'Israël. Comment ceci peut être compatible par le Messie avec sa mort? C'est comme si, imaginez un entraîneur de football qui dit à son équipe, voilà, l'objectif final de l'année, c'est d'être champion, de gagner la coupe. Voici ma stratégie, nous allons perdre tous les matchs. Non, si tu veux avoir la coupe, si tu veux la victoire, il faut gagner les matchs. Et là, finalement, c'est comme ça que Pierre le comprend. Et Jésus va le reprendre sévèrement, et vous remarquerez la nuance, je relis le verset 33. Pierre prend à part Jésus. Je ne sais pas pourquoi il veut le prendre. Il n'ose pas lui faire un reproche devant les autres. Il le prend à part et il veut lui dire quelque chose de... parce que ça, il ne peut pas s'en empêcher. Il lui dit, mais en tout cas, il ne veut pas que ça soit public. Manque de peau. Jésus n'est pas content parce que lui dit Pierre. Et Jésus se retournant, regardant ses disciples. Jésus veut que sa réponse soit bien claire et que tous comprennent, parce que je pense que la remarque de Pierre, d'autres se l'ont faite. Et il va dire à Pierre cette phrase qui peut nous sembler terriblement dure, « Arrière de moi, Satan !» Pourquoi ? Il ne le dit, « Car tu ne conçois pas les choses de Dieu. » Tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. le problème de Pierre, c'est qu'il réfléchit d'une façon humaine. Et qu'en réfléchissant d'une façon humaine, il est imbriqué dans la mode de pensée de Satan qui veut éviter qu'à Christ qu'il ait la royauté. Et c'est pour ça que Jésus le rejette violemment, parce que sa pensée, qui est une pensée des hommes, finalement rejoint la pensée de Satan qui est l'ennemi de Dieu et qui ne veut pas que Dieu triomphe. Alors Jésus lui fait comprendre la gravité de la chose. J'ai croisé ces derniers temps, pendant l'été, j'ai eu l'occasion de participer à différents événements en France, et j'ai croisé une quantité de personnes qui m'ont dit croire en Jésus, mais dont le Jésus, finalement, quand je les écoutais, le portrait de ce Jésus qu'elles me dressaient était un portrait que je remarquais très peu proche de celui des Écritures. Un Jésus sauce personnelle, ou peut-être un Jésus comme il leur semblait qu'il devait être, ou un Jésus dont on leur avait parlé quand ils étaient petits et auquel ils s'étaient attachés. Une conception du Messie et de son rôle qui était propre à leurs intentions. Mais Jésus, voyant ses disciples ayant une telle compréhension personnelle, veut rétablir la vérité et leur montrer que ce n'est pas simplement un Christ qui est vainqueur par une victoire, qui est un Christ de triomphe, qui est un Christ qui va apporter que des choses positives, mais qu'il est le Christ qui va mourir à la croix. Et un petit peu plus tard, je ne vais pas en parler maintenant, mais au chapitre 10, Jésus va reprendre cet enseignement. Là, nous avons le premier G, et ensuite il va y revenir, il va enfoncer le clou, donc nous le verrons dans une prochaine prédication. Mais Jésus veut que nous ayons une vision conforme à ce que lui dit de lui, à ce que les Écritures disent de lui, et non la nôtre. Suite à ces paroles, suite aux paroles de Pierre, Jésus décide d'appeler la foule et veut enfoncer le clou. Et nous l'avons vu, Jésus explique que être le Christ est lié à sa mort. Et Jésus maintenant veut montrer à ses disciples que le fait d'être être un de ses disciples est lié à notre mort à nous. Pour être le Christ, Jésus devait mourir. Pour être ses disciples, nous devons nous mourir à nous-mêmes. Et je lis à partir du verset 34. « Puis ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. » Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde, dans le sens de tout ce que propose le monde, toute l'abondance du monde, s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Je m'arrête ici. Première chose que nous avons vue, donc, le fait que Jésus soit le Christ implique sa mort, et le fait que nous soyons ses disciples est aussi lié à notre mort. Une mauvaise compréhension de Jésus signifie aussi une mauvaise compréhension de ce qu'est la vie de disciple. C'est pour moi ce qui fait le lien entre le premier texte que je viens de lire et le deuxième. Jésus veut que Pierre comprenne bien qui il est. Et derrière, Jésus veut que ses disciples comprennent bien ce que ça implique pour eux. Je suis le Christ et je vais à la croix. Vous êtes mes disciples. Vous devez aussi porter votre croix et y aller. Qu'est-ce que ça implique ? Ici, mourir à vous-même. Celui qui veut préserver sa physique, dit Jésus, perdra son âme. Et la réflexion est celle-ci. On peut réfléchir à des petits détails, vous savez, de ce qu'implique le fait de renoncer, et souvent on fait ça, renoncer à Jésus, c'est peut-être renoncer à soi, c'est peut-être renoncer à des petites choses, faire des petits sacrifices, voilà. Mais là, ce que dit Jésus, c'est un appel général, c'est quelque chose de bien plus profond et capital. Devenir puissant, gagner beaucoup d'argent, devenir connu, être dans une santé incroyable, d'être le plus beau, le plus fort, d'être adoré par les gens. Tout cela nous conduira de toute façon à la mort. Et après la mort, confronté à Dieu, à sa beauté, à sa sainteté, à sa justice et ses perfections, qu'est-ce que toute notre vie vaudra ? Qu'est-ce qu'elle nous permettra de gagner ? Rien. Au final, si on vit pour gagner tout ce que le monde nous propose, on perd. Gagner, c'est perdre. Perdre, c'est gagner. C'est un petit peu ça ce que Jésus veut leur expliquer. En revanche, celui qui est prêt à renoncer à soi-même, c'est-à-dire pas renoncer à des petites choses de sa vie ou faire des changements d'orientation par rapport à telles ou telles habitudes, mais c'est bien plus important, c'est renoncer à soi, renoncer à qui je suis, à ce comment moi je me définis et je définis ma vie, je définis mes valeurs, mes principes, c'est toutes les choses fondamentales. Jésus dit que nous devons renier à toute chose pour être ses disciples. La vie chrétienne est une vie alignée sur la vie de Christ et sur là où il veut nous conduire. Ce n'est pas simplement passer d'un objectif ou d'une vision du monde à une autre. Ce n'est pas passer d'une morale à une autre. Ce n'est pas comme lorsque quelqu'un change d'avis politique. On était de gauche, on devient de droite, on est de droite, on devient de gauche. Ou changer de projet professionnel de vie. Ce n'est pas passer d'un système de pensée à un autre, mais c'est passer d'une vie à une autre. Et Jésus veut être clair. On ne peut pas vivre pour soi et vivre pour lui. Il n'y a qu'une seule vie qui est possible pour être son disciple. C'est une vie où nous mettons à mort notre vie et nous la donnons à Christ et nous la suivons en toute chose. En toute chose. Et finalement, nous avons dans ce texte un peu un enseignement que Paul dévoilera après de façon plus claire, après la croix pour l'Église, qu'on appelle la sanctification. Vivre en tant que disciple, c'est quelque chose qui a une double facette. Il y a d'un côté des choses, un côté négatif, des choses à faire mourir, et des choses à laisser vivre, à suivre Christ et vivre à sa suite. Et là, Jésus dit, il faut que vous laissiez, faut que vous fassiez mourir votre orientation de vie, votre décision de vie, et que votre vie suive la mienne, parce que la mienne va à la croix. Votre vie de chrétien vous coûtera peut-être la vie. En revanche, votre âme est sauvée. Vous allez peut-être être privé de beaucoup de choses du monde parce que vous aurez fait un choix de ne pas poursuivre l'argent, de ne pas poursuivre le sexe, de ne pas poursuivre toutes ces choses qui pourraient vous apporter soi-disant un plaisir maintenant, mais desquelles vous pâliriez devant Dieu. Mais renoncez à tout ça pour me suivre, moi. Sans sa mort, il n'y a pas de salut pour nous. Sans notre mort, il n'y a pas de vie à sa suite. Sans sa mort, il n'y a pas d'espérance pour nous. Sans notre mort, il n'y a pas de proclamation de l'Évangile. C'est ce que Jésus témoigne ici. Sans notre mort, il n'y a pas d'annonce de l'Évangile. Le fait d'annoncer l'Évangile et de se mettre au service de celui qui aura été rejeté par la crème de ce monde apportera de la souffrance. Et les disciples vont le connaître. Mais parce qu'ils ont été prêts et qu'ils ont compris que leur vie n'était plus pour eux-mêmes, mais qu'elle était pour Christ, ont été prêts à perdre leur vie pour Christ et pour son message. Et le texte est clair. Le fait qu'il est le Messie est lié à sa mort. Le fait qu'on est ses disciples est lié à notre mort. Et nous arrivons à la suite de ce texte où Jésus, après avoir annoncé ces choses-là et annoncé sa mort, vous avez vu au verset 31, Jésus annonce qu'il va mourir, mais aussi qu'il va ressusciter. Apparemment, vu la façon dont Jésus enseigne après et la remarque de Pierre, quand ils ont entendu il sera mis à mort, la suite de la phrase, ils ne l'ont pas entendu. La résurrection est passée à côté, parce qu'il est resté sur la question de la mort. Ce n'est pas possible que le Messie meure. Et Jésus dit non, c'est une nécessité que je meure pour votre salut. Et d'ailleurs, il y a une nécessité à ce que vous mouriez pour me suivre. Et alors, à la suite de ça, pour pouvoir enseigner, montrer la réalité glorieuse et que c'est par sa mort, par la nécessité de sa mort qu'il va révéler toute sa gloire, Jésus veut leur montrer qui il est réellement. Et vous savez, ce qu'il va faire, c'est comme lorsque l'on est au théâtre et qu'on attend que la pièce soit jouée, il y a derrière les musiciens, on entend un petit peu des bruits, et les disciples sont dans cette situation-là. Ils entendent, ils voient des choses, mais ils ne comprennent pas tout. Et c'est comme si Jésus, pendant un temps, allait ouvrir le voile et leur dire « Voyez ce qu'il y a derrière. » Et puis il va refermer. Il leur dit « Ça, c'est ce qui vous attend. C'est qui je suis vraiment. » Et je lis à partir donc du chapitre 9, verset 1. « Il leur dit encore, « Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. » 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Alors, quand on arrive là, on sait déjà qu'il va se passer quelque chose. Quand Jésus monte sur une montagne, ou quand Moïse monte sur une montagne, enfin, quand un personnage biblique monte sur une montagne, il se passe des choses. C'est symbolique, quoi. On se rapproche de Dieu sur sa montagne. Bref. Et on est au sommet physique, et on va arriver au sommet réel, pas spirituel, mais réel, je vais revenir dessus, de qui est Jésus. Et il va leur faire un cadeau extraordinaire. Et donc, il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants, d'une telle blancheur qu'il n'est pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent s'entretenant avec Jésus. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Car il ne savait que dire, l'effroi les ayant saisis. Une nuée vint les couvrir et de la nuée sortit une voix. « Celui-ci est mon fils bien-aimé. » Écoutez-le. Aussitôt, les disciples regardèrent tout autour et ils ne virent que Jésus, seul avec eux. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda de ne dire à personne ce qu'ils avaient vu jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Il leur a fait voir quelque chose que l'on ne peut voir normalement que plus tard. Ils retinrent cette parole, se demandant entre eux ce qu'ils entendaient par ressusciter des morts. Les disciples lui posèrent cette question, « Pourquoi les scribes disent-ils qu'il faut qu'Élie vienne premièrement ?» Il leur répondit, « Élie viendra premièrement, il rétablira toutes choses. Et pourquoi est-il écrit du Fils de l'homme qu'il doit souffrir beaucoup et être méprisé ? Mais je vous dis qu'Élie est venu. » et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu, selon qu'il est écrit de lui. » Et bien sûr, là, Jésus fait référence à Jean-Baptiste. Première chose, c'est que le fait qu'il soit le Messie est lié à sa mort, le fait que nous soyons ses disciples est lié à notre mort, et le fait d'être ses disciples implique pour nous de voir sa gloire. Le royaume de Dieu, par cet événement de la transfiguration, est montré tel qu'il est et montré qu'il est déjà bel et bien présent. La thématique du royaume de Dieu est assez souple et assez complexe, difficilement palpable pour nous. Mais le royaume de Dieu nous est présenté tantôt par la venue de Jésus sur terre, tantôt par inauguré par l'œuvre de la croix, et des fois par la résurrection et l'ascension. Mais en tout cas, cette période-là nous est présentée dans l'ensemble, et moi je crois que je veux rester assez souple, que dans l'ensemble, Dieu, par la venue du Messie, montre qu'il est le roi qui vient reconquérir, que l'alliance qui avait été promise est accomplie et que le roi va régner. Et Jésus veut leur montrer qui il est réellement, sans s'être, maquillé, mais sans se voiler devant eux. La transfiguration, comme je vous l'ai dit, c'est le voile qui nous révèle, qui nous permet d'être témoins et que eux, apôtres et disciples, pourront témoigner plus tard de ce qu'ils ont vu et que ce Jésus-là est bel et bien le Christ. Oui, ce Christ devait mourir, mais ce Christ aujourd'hui, il est à la droite du Père et nous avons vu sa gloire. Jean introduira son épître comme cela. Son évangile, Pierre, lui, une de ses épîtres aussi comme cela. La présence de Moïse et d'Élie, on pourrait en dire beaucoup de choses, mais je ne voudrais pas vous perdre avec ça. Mais simplement, en faisant au plus court, c'est un argument pour nous présenter deux choses. Le premier, c'est que nous avons ces deux hommes qui sont un petit peu des archétypes de l'Ancien Testament. Le conducteur, celui qui a donné la loi, et Élie qui est l'archétype un petit peu du prophète. Et comme deux grands leaders, ils représentent l'ensemble de l'Ancien Testament et Jésus est en train de les enseigner. Et il pose des questions à Jésus. Et ça nous montre que tout l'Ancien Testament pointait vers la révélation de Christ. Et Christ est le sommet. Et le sommet est au-dessus d'Élie. Christ est au-dessus de Moïse. Moïse, quand il rentrait dans la tente, sa tête après brillait pendant un temps. Là, Jésus éclate de brière. Éclate de lumière dans sa gloire. Aussi, une autre chose, et c'est là-dessus que je voudrais prendre un axe un petit peu différent pour la suite. La présence de Moïse et d'Élie, vivant, est un argument très fort contre une doctrine qui était enseignée notamment dans l'Église catholique, sur ce qu'on appelle le sommeil des âmes. Où entre la mort et le retour de Christ, les personnes, les âmes qui demeurent vivantes, seraient dans une forme de pause, comme si on avait appuyé sur pause, et qu'elles soient dans une autre réalité. Je sais, vous allez voir. Moi aussi, en le disant, ça me fait bizarre, mais vous allez voir, on va retomber sur nos pieds. Le monde surnaturel fait partie du réel. Le monde surnaturel est le monde que, par nos sens, par notre intelligence, nous ne pouvons percevoir. Mais c'est une dimension de la réalité bel et bien présente, bel et bien actuelle. Jésus, qui est fait de chair et de sang, Dieu et homme à la fois, 100% Dieu, 100% homme, passe du temps avec ses disciples, mange avec eux. Et à un moment donné, il les amène à l'écart et leur montre les choses telles qu'elles sont. Et ils se retrouvent en présence de la Trinité. Ils ne sont pas allés dans une autre dimension, ils se sont reculés sur la montagne et Jésus leur a permis de voir quelque chose de différent. comme Élisée dans l'Ancien Testament, qui se retrouve encerclé dans Jérusalem par les Syriens, et il y a un serviteur qui dit « Oh là là, ils sont plus nombreux que nous !» Et Élisée, 2 Rois 6, prie pour que Élisée puisse voir la réalité, et les yeux d'Élisée s'ouvrent, et Dieu lui fait ce cadeau de pouvoir voir les anges, l'armée des anges, présente pour les protéger. Nous vivons dans un monde naturel et spirituel. La réalité, ce qui fait que le monde est monde, englobe la totalité de ce qui est matière, visible, palpable, rationnel, les lois, etc., etc., mais aussi le monde spirituel, surnaturel. Dieu est bel et bien présent parmi nous ce matin. On est d'accord avec ça. Et c'est la différence entre les chrétiens évangéliques et une autre branche du christianisme qu'on appelle les chrétiens libéraux, vous savez, qui sont ce qu'on appelle très naturalistes et qui pensent que le monde finalement n'est que matériel et que oui, peut-être il y a une sphère quelque part où il y a Dieu, mais Dieu n'est pas impliqué dans les choses du monde et nous, nous sommes dans un monde qui est complètement fermé, qui est clos et qui n'est pas en tout cas en présence de spirituel. Mais Jésus veut ouvrir la porte à ses disciples et leur dire, ils ont déjà vu des choses, des manifestations de démons, de choses comme ça. Mais là, Jésus leur montre quelque chose, une réalité qui est incomparable, qui est glorieuse. Il est le Christ, ceci implique sa mort. Il est le Christ, ça va conduire ses disciples à le voir tel qu'il est vraiment. Un chrétien qui croit réellement en la Bible est une personne qui vit de façon pratique dans un monde matériel et dans un monde immatériel. C'est pour cela, et je prends un exemple tout bête, que lorsqu'il est malade, il prie et il va chez le médecin. Lorsqu'il lui arrive, lorsqu'il a un souci qui est devant lui, il sait que Dieu est présent et que Dieu est souverain sur ce monde. Alors il va demander à Dieu de l'aide et qu'il va à son tour lui aussi pouvoir s'engager et faire des efforts, faire des choses. Je prends juste dans le psaume 127, verset 1. Un verset que j'aime beaucoup, qui pour moi résume avec, pour nous, d'un point de vue pour la sagesse chrétienne, Salomon qui dit « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. » Dieu doit-il garder la ville ? Oui. Faut-il des sentinelles ? Oui. Nous vivons dans cette double réalité. Enfin, cette réalité, mais qui est en deux facettes. Et nous sommes appelés à agir dans ce monde-là, mais à agir en ayant à l'esprit que Dieu est bel et bien présent. Maintenant, je voudrais qu'on se pose une dernière question avant de conclure. Quel est le Christ avec lequel nous entretenons une relation ? Quand nous pensons à Christ, aujourd'hui dans nos vies, qui voyons-nous ? Un bébé dans une mangeoire ? Un Galiléen avec sa toge et ses sandales qui était en train d'enseigner aux gens ? Croyons-nous avoir un Christ sur une croix actuellement ? Ou voyons-nous le Christ ressuscité, glorifié, qui siège à la droite du Père ? Jésus a voulu que les apôtres le voient tel qu'il est vraiment. Et quand Jean, après la croix, écrira l'Apocalypse et qu'il verra Jésus, la description qu'il en fait n'est pas du tout la même que celle qu'il fait dans les évangiles. Jean voit Christ maintenant dans sa gloire pleine. Et ce Christ-là que voit Jean est celui que nous devons voir par les yeux de la foi C'est celui en qui nous croyons. Et c'est en ayant cette vision-là de Christ que nous pouvons avoir confiance et le suivre quand il nous dit de mourir à nous-mêmes. Si nous avons une vision d'un Christ qui est faible, une vision d'un Christ qui serait un Christ qui veut juste nous apporter des bénéfices et transformer notre vie petit à petit, on n'y arrivera pas. Si on croit que Jésus, par la croix, était simplement que son acte à la croix était simplement qu'une défaite et non sa victoire, on n'aura pas confiance dans le fait qu'il nous dit que par l'œuvre de la croix, il nous lave de notre péché. Quand il dit qu'il a tout pouvoir sur la terre et dans le ciel, ça nous amène à le voir tel qu'il est réellement glorifié. Et c'est ce que Paul souhaitait pour l'Église, et je vais citer juste ce texte dans Éphésiens, au chapitre 2. À partir du chapitre 1, pardon, verset 18, « Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par vertu de sa force, la force de Dieu. Il l'a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui puisse être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. » Nous vivons dans cette réalité-là. Christ est ressuscité, il est vivant dans sa gloire et il règne. Quelle est notre vision de Christ dans notre vie chrétienne ? Je conclus, le fait que Jésus soit le Christ est lié à sa mort. Le fait que nous soyons ses disciples est lié à notre mort. Et le fait que nous ayons le courage de nous engager dans la voie chrétienne est lié à ce que nous avons vu par la foi, sa gloire. Parce que nous savons qu'il est mort, qu'il est ressuscité et qu'il règne. Alors, ayons les yeux fixés sur Jésus, mais le Jésus glorifié pour l'éternité. Amen.